Chers auditeurs, en cette année 1906, l'attention des évêques était accaparée par la question de l'acceptation ou du rejet des associations cultuelles. Mais Mgr Gieux, pas plus que ses confrères évêques, ne perdait de vue un autre problème aussi crucial et urgent que le premier, et qui concernait la rémunération des prêtres. Il n'ignorait pas que beaucoup de prêtres du diocèse, depuis plusieurs mois, n'avaient reçu aucun traitement et que d'autres n'avaient touché que des sommes dérisoires. Il avait appris de sources sûres que des curés et des vicaires souffraient, qu'ils s'imposaient les plus dures privations et se trouvaient à bout de ressources. Mgr Gieux n'ignorait pas non plus que les situations héroïques gagnaient à ne pas durer trop longtemps. Aussi, dès le 19 juin 1906, avait-il convoqué une réunion des archiprêtres, vice-archiprêtres et doyens, qui, après avoir consulté les curés de leur secteur, devaient aider l'évêque à apporter solution, au moins provisoire, à ce problème dramatique. Un principe fut retenu et ne devait être jamais remis en question. C'était l'évêque qui prenait la place de l'État pour assurer la rémunération des prêtres. Mais la collecte se ferait à l'intérieur de chaque paroisse. Elle serait confiée aux ailes des curés pour l'organiser et à leur conscience pour la faire parvenir à l'évêché. Ainsi, l'évêque s'en remettait à la sagesse des curés pour appliquer la méthode qu'il jugerait la meilleure pour recueillir les souscriptions. Il leur donnait cependant un conseil en vue d'une attitude vraiment pastorale. Nous vous demandons instamment, messieurs et chers collaborateurs, de ne pas laisser pénétrer la politique dans vos projets d'organisation. Ne penchez ni à droite ni à gauche. N'excluez pas de parti pris tel ou tel de vos paroissiens parce qu'ils pensent autrement que vous. N'en choisissez pas uniquement parce qu'ils pensent comme vous. Vous êtes le curé de tous. Vous êtes et devez rester le père de toute votre famille. Le 7 avril 1907, Mgr Gieux reprenait la plume et s'adressait à ses diocésains pour les entretenir de l'œuvre du denier du culte et de son organisation. Une commission était nommée pour s'en occuper. Elle était présidée par Mgr l'évêque et elle comprenait les membres du conseil épiscopal, les 5 archiprêtres du diocèse et 3 vice-archiprêtres. En faisait partie également 5 laïcs, messieurs Détroyat, ancien banquier, Henri de l'Estapiz, ancien magistrat, monsieur Chénelon, négociant, Echeverry, ancien député, et Ducret, avocat. La commission du denier du culte prenait place dans l'annuaire diocésain dès 1908, parmi les organismes et conseils officiels. Elle y restera jusqu'en 1970. Peu à peu, le groupe des laïcs va disparaître et ne sera pas remplacé. La commission avait pour but unique de subvenir à l'entretien des ministres de la religion et non de pourvoir à leur logement, pas plus qu'aux frais du culte ou à l'entretien des églises. Déjà à la réunion du 19 juin 1906, il avait été convenu qu'on se contenterait de reconstituer les traitements que l'État accordait jusque-là aux prêtres de ce diocèse et qui s'élevaient à 555 000 francs. Mais cette participation n'était pas laissée à l'appréciation ou à l'arbitraire de chacun. Ce sont donc les paroisses qui vont être taxées et pour sauvegarder le plus possible l'équité, la commission avait fait reposer le projet de taxation sur une double base, la richesse communale et la population des paroisses. On avait pour cela réparti les paroisses en 6 catégories d'après la valeur du centime dans la commune. Et le montant de la participation de chaque paroisse était calculé en multipliant le nombre de catholiques par une taxe différente pour chaque catégorie, qui allait de 1,25 franc à 1,50 franc par habitant. Messieurs les curés devaient demander une cotisation à tous les catholiques de leur paroisse, sans distinction de fortune ou d'opinion. nous ne permettons pas, leur disait Monseigneur, qu'une ou plusieurs familles se chargent de la souscription entière de la paroisse. Le traitement que chaque curé ou des servants touchés de l'État s'élevait à 900 francs par an. C'est ce que la commission du denier du culte voulait attribuer à chaque prêtre en paroisse. Une difficulté se présentait du fait que le diocèse comptait 252 paroisses de moins de 500 habitants qui ne pourraient pas procurer les 900 francs à verser au curé. Mais la péréquation serait possible grâce à la centralisation des ressources. De plus, la commission avait prévu la solution d'un certain nombre de problèmes que le concordat n'avait pas résolus, par exemple celui des annexes, et surtout celui des 150 vicaires que comptait le diocèse. Ils étaient rémunérés au taux de 750 francs par an, le plus souvent par les communes et par les fabriques. Comme ces dernières ne pouvaient plus rien pour eux, ils restaient à la charge de l'œuvre du denier du culte et cela représentait une somme importante à ajouter à celle qui était prévue pour les curés. Les souscriptions des paroisses devaient être centralisées entre les mains de messieurs les curés. Si la contribution paroissiale n'atteignait pas 900 francs, ils devaient garder les fonds recueillis et Monseigneur l'évêque leur enverrait le complément dans le courant de l'année jusqu'à concurrence de 900 francs. Si la contribution dépassait 900 francs, messieurs les curés devaient la verser intégralement entre les mains de l'évêque et celui-ci leur réglerait leur traitement. Le règlement ajouté, il y a pour messieurs les curés une obligation de conscience de n'en rien détourner, de n'en rien réserver sous quelque prétexte que ce soit, même dans un but pieux, et alors même qu'on aurait versé en entier la contribution paroissiale. Toute infraction à cette décision constituerait une faute et obligerait à réparation. Des sanctions étaient prévues à l'encontre des paroisses ou des familles qui n'accepterait pas de participer au denier du culte. Toute paroisse qui refusera d'y souscrire sera privée de curé, quelle que soit son importance, et sera annexée à une paroisse voisine. Le service religieux y sera réduit au strict nécessaire. Des sanctions individuelles frapperont également les familles qui refuseront leur participation à l'entretien du clergé. Pour elles, les cérémonies qui marquent les grands moments de la vie seront réduites au minimum. Et Mgr Gieur spécifiait que toute autre action était formellement interdite. Il ajoutait une recommandation qui témoignait de son souci pastoral. Nous invitons, messieurs les curés, à s'inspirer en toute occasion de l'esprit de l'Évangile qui est esprit de charité et à user, dans les cas embarrassants, d'une constante générosité. Nos religieuses populations seront plus touchées par notre charité et notre désintéressement qu'elles ne seraient ébranlées par notre sévérité. Après les tâtonnements du début, le système va rapidement fonctionner de façon satisfaisante. C'est ainsi qu'en 1909, tous les traitements sont payés. L'année suivante, si 273 paroisses n'atteignent pas la cotisation demandée, 80 en approchent et 228 l'atteignent ou la dépassent. Il faudra, après la guerre de 14-18, réajuster les traitements et par le fait même augmenter la cotisation à 3 francs. On invente des stratagèmes pour raviver la générosité des fidèles, mais peu à peu on revient à la règle première qui voulait que la totalité de la collecte aille à l'évêché. Les taxations vont disparaître, les sanctions aussi, et bientôt il n'y aura dans les paroisses que les catholiques qui comprennent la nécessité d'alimenter le denier du culte et les autres, souvent les plus nombreux que les premiers, surtout dans les villes, qui n'y pensaient même pas. On verra la prochaine fois le problème de la location des presbytères et diverses sanctions pour opposition à l'exécution de la loi.